Eh oui, en tout cas, moi je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin?
Amen.
Ah, moi je n'ai pas entendu les gens de ce côté. Au fond, est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin?
Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que, comme disait le pasteur Xavier, la parole de Dieu est indispensable pour nos vies. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons Dieu. Vous savez, j'ai appris une chose dans ma modeste vie. C'est que si on n'aime pas entendre les paroles de quelqu'un, c'est qu'on déteste la personne. Vous avez remarqué, hein? Du haut de mes 70 ans, j'ai appris ces choses. Ah, il y en a qui se sentent tout jeunes, du coup, tout à coup, hein? J'ai appris ces choses, que quand on n'aime pas entendre les paroles de quelqu'un, finalement, c'est la personne qu'on n'aime pas du tout. Parce que quand on aime quelqu'un, même si ses paroles sont olé olé, on les aime quand même. Vous avez remarqué? Et ce matin, j'aimerais vraiment, vous savez que le thème que j'aborde avec vous ici, en tout cas, c'est ce que le Seigneur m'a donné en début de saison, c'est de partager avec vous le juste de Dieu. Et il y a quelques semaines, ou je sais pas, au mois certainement de septembre, lorsque nous nous sommes vus, nous avons vu ensemble le juste qui est le messager de Dieu. Le juste qui est l'envoyé de Dieu, cet homme, cette femme, comme nous l'avons encore entendu ce matin dans les prières, dans les prophéties, cet homme, cette femme qui a été mise à part par Dieu, justement pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc l'apôtre Paul va dire un terme qu'on peut peut-être comprendre mieux aujourd'hui, il va dire « nous sommes ambassadeurs pour Christ ». Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé par son pays dans un pays étranger. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre dira « Nous sommes pèlerins sur la terre ». Et Jésus dira « Père, je prie pour pas que tu les ôtes du monde, mais pour qu'ils soient dans le monde pour annoncer quoi ? Justement l'évangile. » Nous sommes sur la terre pour un temps, frères et sœurs. Et parce que nous y sommes pour un temps, nous devons être conscients de cette réalité afin justement de rentrer dans les œuvres de Dieu. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous puissions justement rentrer dans ses œuvres. Parce que la Bible dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. C'est bien de tondre le gazon de son jardin, mais ça ne compte pas sur le livre des œuvres de Dieu. C'est bien de faire sa mécanique quand on a des soucis avec sa voiture. Mais ça compte pas vraiment dans les œuvres de Dieu parce que cela ne fait pas partie des œuvres de Dieu. C'est pas sur la liste. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, nous allons visiter une mamie qui est fatiguée, un papy qui est fatigué, un papy qui est découragé parce qu'il ne peut plus voir ses petits-enfants, lorsque nous sommes poussés ainsi par le Saint-Esprit pour aller lui rendre visite, pour aller rendre visite à cette mamie. Oh là, Dieu prend plaisir. Et là, il met ça sur le catalogue des œuvres divines. Oh, peut-être, me diriez-vous ce matin, Ulrich, si on avait un compte un peu plus gonflé en banque, est-ce que ça compte? Je crains de vous dire ce matin que ça ne compte pas. Dieu a préparé les œuvres d'avance. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous, toujours dans la lignée du juste, le titre de mon message, c'est « Le juste et la bénédiction divine ». Le juste et la bénédiction divine. Tout le monde parle de la bénédiction. Les enfants, comme les plus âgés, tous, on parle de la bénédiction. Et nous sommes tous amis de la bénédiction. Nous aimons tous la bénédiction. Il n'y a personne en ce lieu qui puisse lever la main et me dire « Oh mais non, Ulrich, moi j'aime pas la bénédiction. » Tout le monde aime la bénédiction. Mais il est bon de savoir ce que c'est la bénédiction. Parce que c'est vrai, on a entendu, la religion s'est mélangée, on nous fait croire des choses, voilà, que la bénédiction. Non, on va regarder ce matin ce que c'est la bénédiction de Dieu et pourquoi le juste est béni. Regardons quelques définitions ensemble. Souvent, ces thèmes, on les emploie comme s'ils étaient interchangeables alors qu'ils ne le sont pas tout à fait. On parle de la bénédiction, on parle de la bienfaisance, on ne sait pas, et on parle de la bienveillance, et on dit que c'est la bénédiction. La bénédiction, voici, d'où ça vient, c'est bénédiction, je n'ai pas un accent italien, pardonnez-moi, c'est du latin, je n'ai pas fait du latin, je n'ai pas fait du grec non plus, j'ai juste fait du français un tout petit peu. Bénédiction, donc qui vient de benedicere, qui veut dire du bien ou bénir. Benedicere, dire du bien ou bénir. Bénédiction, donc ça veut dire du bien. Et l'antinome de bénédiction, c'est quoi? Malédiction, qui veut dire du... Donc, la bénédiction, c'est quoi? C'est la parole que Dieu a proclamée. Nous allons le voir. Cette parole, elle est liée à sa souveraineté, à sa justice, à sa grâce, tout ce que vous voulez. Et la bienfaisance est directement liée à la bénédiction. Comme ce mot le dit, bénéficientia ou je ne sais pas quoi, excusez-moi les latinos, faire du bien, la bienfaisance. Et vous avez l'habitude de ça dans les psaumes où les psalmistes disent... T'es bien fait. Il est question de la bienfaisance divine. Elle est liée à l'amour, à la grâce, à la bonté, à la miséricorde de Dieu. Ensuite, nous avons le mot bienveillance, qui est également lié à la bénédiction. Bienveillance qui vient en fait du mot bénévole. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est pour ça que la bienveillance de Dieu n'implique pas que nous donnions quoi que ce soit en retour à Dieu. Il est bienveillant envers nous. J'aime à préciser ce terme pour que nous puissions comprendre où nous allons ce matin. Parce que souvent nous disons la bénédiction, la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est ce que Dieu a dit. Nous lisons un premier texte pour aller à l'origine. Qu'est-ce que Dieu nous dit à l'origine? Dans le livre des commencements. Voici, lorsque Dieu, le Dieu trinitaire, va décider de faire l'homme à son image selon sa ressemblance. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand je préparais ce message, je n'avais pas, au moment où je le préparais, ce que je veux vous dire maintenant. Et je me suis réjoui du Saint-Esprit, tu es excellent. Tu as pitié des hommes comme moi, qui sont limités, qui ont besoin d'être éclairés par toi, parce que tu es l'auteur des Écritures. Et là, le Saint-Esprit me disait, regarde bien. C'est pour ça que j'ai souligné exprès. Il me dit, regarde, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il me dit, Dieu a dit, Dieu a créé l'homme, oui. Il dit, mais Dieu a d'abord fait quoi? Dieu a dit, Dieu a d'abord proclamé que je vais créer l'homme. Comment? À mon image et à ma ressemblance. Et ensuite, parce que Dieu a proclamé, il va faire. Je dis, waouh! C'est pour cette raison que l'apôtre Jean nous dit dans son évangile, au commencement était, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. C'est ce que la Bible nous dit. Donc Dieu a d'abord dit. Donc Dieu proclame. Et quand il a fini de proclamer, il va exécuter ce qu'il va proclamer. Il dit, je vais faire l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Ensuite, Dieu créa l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, vous allez vous remarquer que quand Dieu a proclamé, l'homme n'était pas là. Il n'était pas là, l'homme. Alors, oui, ça peut-être, ça fait tourner les têtes ce matin. Oui, l'homme n'était pas encore créé. Mais pourtant, Dieu a déjà acté la chose. Normalement, ce matin, quelqu'un devait dire Amen seulement. Amen. Dieu te dit que lui, dans son plan pour l'humanité, il t'a déjà béni avant que tu ne viennes au monde. Mais frères et sœurs, ce qui nous embête, c'est que nous voulons chercher des choses là où Dieu ne nous demande pas d'y aller. Dieu te dit, tu es déjà béni avant que tu viennes au monde. Dieu a déjà proclamé. Dans le décret divin, toi et moi, nous sommes déjà bénis. Et ensuite, Dieu va nous créer. Et Dieu va les bénir. C'est le même mot. Donc, c'est Dieu proclama sa bénédiction. Dieu bénit et leur dit. Vous voyez, c'est bénédiction. Et dans la bénédiction de Dieu, il va dire quoi? Soyez féconds, multipliez. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin que nous puissions poser les fondements. Il faut que nous le comprenions. Nous allons le voir plus loin. Dieu ne peut pas faire une chose sur laquelle il ne s'est jamais engagé. Écoutez-le ce matin, je vous le dis. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause du fait qu'ils veulent amener Dieu dans leurs sentiments, dans leurs désirs, dans leur situation. Dieu dit, moi je suis le Dieu qui prend, qui suit quelqu'un qui a ma parole. Quelqu'un qui suit ma parole, c'est cette personne-là que je suis. Ce fut le cas pour cet homme appelé Joseph. Joseph a eu des rêves extraordinaires de la part de Dieu. Et ses frères l'en ont voulu, l'ont vendu, il fut esclave en Égypte durant des années. Et en Égypte, il pensait qu'il avait trouvé grâce auprès de son maître. Celui-ci a été encore dur avec lui parce qu'il a écouté sa femme qui a injustement accusé Joseph. Et Joseph va se retrouver en prison. Mais pourquoi Joseph va refuser, va repousser la femme de Potiphar? Parce qu'il va dire, je ne peux pas pécher contre Dieu, et je ne peux pas faire du mal à cet homme, Potiphar, qui m'a bien accueilli dans sa maison. La particularité de cet homme, c'est qu'il avait la grâce de Dieu sur sa vie. Mais c'est quelqu'un qui avait gardé la parole de Dieu. Il avait gardé son rêve. Il avait gardé ce que Dieu lui a donné. Il a dit, peu importe ce qui m'arrive, c'est pour cette raison, lorsque ses frères vont enfin le reconnaître, au bout du deuxième voyage, Joseph va leur dire, mais je suis Joseph que vous avez vendu. Oh, Joseph aurait pu dire, maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Mais Joseph va leur dire, ne soyez pas, ne craignez pas. C'est Dieu qui m'a emmené ici. Écoutez, écoutez, frères et sœurs, comment Dieu peut amener quelqu'un dans une situation comme celle-là? Il avait 17 ans, le bonhomme. Lorsqu'il quitte sa famille, il est arraché à sa famille. Il avait 17 ans et il a souffert pendant 13 ans de sa vie. 13 années, il était là en prison, injustement accusé. Jusqu'au moment où Dieu va l'élever dans le pays d'Égypte. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'exemples comme ça, où un premier ministre dans un pays est un ministre, premier ministre étranger. Dieu va élever Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph va être attaché à la parole. Pharaon va élever Joseph qui est un étranger. Il va le mettre quasiment sur le trône parce qu'il va lui donner son anneau. Il va dire, oui, en fait, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Frères et sœurs, nous avons besoin. Dieu dit, voici ce que j'ai fait. J'ai d'abord dit, j'ai d'abord proclamé. C'est pour ça que la Bible nous dit que proclamer, là, c'est important. Plutôt que de proclamer des choses qui ne sont pas selon Dieu, apprenons à proclamer les choses qui sont selon lui, frères et sœurs. Dieu dit de la même bouche, de la même source. Il ne peut pas y sortir de quoi? De l'eau douce et de l'eau amère. Tu ne peux pas être quelqu'un qui bénit et qui maudit, non. Tu es schizophrène. Tu peux pas. Tu as une double personnalité. Tu peux pas être quelqu'un qui rencontre son frère alors que tu le vois, tu rigoles avec lui et quand il tourne le dos, tu commences par... Ça, non. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, frères et sœurs. Dieu nous a bénis. Et lisons un autre texte. La bénédiction de Dieu pour Abraham. Alors que l'humanité va s'éloigner de Dieu à cause du péché, il va y avoir une cassure entre Dieu et les êtres humains. Et là, Dieu va faire appel à un homme qui était païen. Ne croyez pas qu'Abraham était un homme meilleur que les hommes et les femmes de sa génération. Il avait lui aussi plusieurs dieux. Lisez dans Josué, vous allez voir. Il avait plusieurs dieux. C'était un païen. Il était polythéiste comme tous les hommes et toutes les femmes de son époque. Et là, Dieu va quand même appeler cet homme. Et voici ce que Dieu va dire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Ah! Il avait quel âge?
75.
Ah! Eh oui. Et quand Moïse a commencé le ministère, il avait quel âge? Eh oui. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Hein. Faut pas dire, ah, moi j'ai eu mes 62 ans. C'est la loi qui dit ça. Non. Dieu se sert de nous, comme on l'a encore entendu ce matin, comme il veut, quand il veut. Il peut utiliser une femme de 100, 119 ans. Est-ce qu'on en a quand même 120? 119 ans. Tout comme il peut utiliser un bébé qui est capable de parler. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voici la bénédiction. Dieu dit à Abraham, je t'appelle. Dieu dit toujours, Dieu commence toujours par dire. Remarquez dans toute la Bible, Dieu dit toujours. Dieu proclame, parce que Dieu, pourquoi il proclame? Écoutez, je prends un exemple tout simple pour que nous puissions comprendre. En France, le vivre ensemble est régi par ce qu'on appelle la loi. Et nous savons que dans la loi française, par exemple, des hommes et des femmes d'un certain âge qui n'ont pas de travail peuvent bénéficier de certains minima sociaux. On est d'accord? À partir de 25 ans, il me semble. On peut bénéficier. Vous êtes potentiellement, ça dit que même si vous ne travaillez pas, vous avez 25 ans, un peu plus, vous êtes potentiellement éligible à recevoir cette prime ou bien cette aide de la société. On est d'accord? Mais pour que vous puissiez en recevoir, qu'est-ce que vous devez faire? Pourtant, potentiellement, la loi dit que vous avez droit. Mais si vous n'en faites pas la demande, vous n'allez jamais en bénéficier. Quand Dieu dit qu'il t'a déjà béni, toutes les bénédictions sont là. On le verra pour le juste. Tout est déjà là. Mais tu as besoin de quoi? La demande que tu fais pour bénéficier du RSA, du RSI, cette demande que tu fais, dans le monde spirituel, on appelle ça la foi. La foi, c'est ton bras qui va chercher. Quand tu es assis sur ton canapé, alors que tu as la zapette à la main, tu as les chips sur l'autre main, tu ne sais pas, tu as besoin d'un verre d'eau. Tu n'as pas de l'eau à côté, sur la table basse, tu n'en as pas. Il faut que tu te lèves. La foi, c'est ton bras, tes pieds qui vont t'amener, et ton bras qui va aller dans ton frigo ou je sais pas, à ton évier pour prendre de l'eau, et tu bois. C'est ça la foi. Les bénédictions sont là. Dieu te dit maintenant par ta foi, parce que tu es attaché. Vous rendez compte que la foi là, c'est pas la magie. C'est pas du mysticisme. La foi est liée à quoi? À la parole. Eh oui. Si tu négliges la parole, ta foi sera toujours paralysée. Que tu le veuilles ou non. Tu négliges la parole, ta foi est paralysée. La foi est liée directement à la parole. Elle est liée à ce que Dieu a dit. Elle n'est pas liée à notre besoin d'abord, non. Elle est d'abord liée à ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit qui doit nous amener justement à manifester la foi parce qu'on lui fait confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne nous a rien dit. Si quelqu'un ne vous a pas promis quelque chose, vous n'irez pas lui dire ensuite, mais moi je suis là ce matin parce que je viens récupérer ci ou ça. Vous allez dire, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas, non. Moi je t'ai rien promis. Vous comprenez? Dieu dit, nous voilà. Il dit à Abraham, voici ce que je ferai de toi. Donc la bénédiction, c'est ce que Dieu proclame. Si Dieu n'a rien dit encore, on ne peut pas amener Dieu à dire, ah mais Seigneur, non, quel que soit le besoin que nous avons. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que si nous négligeons la parole de Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est ce que Dieu nous dit dans l'épître de Jacques. Il dit, ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu. Nous venons ici dimanche après dimanche. Frère, ça ne sert à rien de venir ici dimanche, écouter la parole, revenir dimanche d'après. Non, la parole là, elle est donnée pour, dans quel but? Dans le but de la pratiquer. Si on ne la pratique pas, elle ne nous sert de rien. Écoutez, si vous êtes quelqu'un, vous avez fait de grandes études et que jamais vous travaillez, c'est que vos études là ne vous servent à rien. Vous allez dire à tout le monde, mais vous savez, je suis ingénieur, mais tu n'as jamais exercé en tant qu'ingénieur. Tu es un ingénieur théorique, c'est tout. Donc c'est ça, frères et sœurs. La parole de Dieu, la foi est liée, la bénédiction, c'est ce que Dieu a proclamé. Il va dire à Abraham, et Abraham va partir selon la parole que Dieu lui avait donnée. Si Dieu n'avait pas parlé à Abraham, comment Abraham se serait-il levé de lui-même pour aller quelque part. C'est ça, frères et sœurs. Même si Abraham avait un sentiment brûlant dans son cœur de vouloir connaître ce Dieu, mais comment pouvait-il faire si Dieu n'était pas venu à lui, vu qu'il y avait une cassure entre Dieu et les êtres humains? C'est de ça qu'il est important que nous puissions traiter ce matin, frères et sœurs. La bénédiction. Lisons un texte ensemble. La bénédiction divine, toujours, pour Israël. Donc, à partir de l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, de ce que Dieu va dire à cet homme appelé Abraham, que va faire Dieu? Dieu lui dira, voilà, je vais susciter un peuple. Et il va tout dire à Abraham, il va dire, mais ton peuple, il sera esclave pendant des siècles dans un pays étranger, et moi-même, je descendrai pour l'en délivrer, et je lui donnerai le pays que je t'ai promis. Et là, voici ce qui se passe, alors que ce peuple, justement, Dieu l'a sorti de façon majestueuse d'Égypte. Dieu le conduit par le désert, et là, il y a des ennemis qui vont se mettre, oui, face au peuple de Dieu, et là, il y a un prophète appelé Balaam, qui va être sollicité par un roi appelé Balak, certainement son cousin de nom, Balak, Balaam. Et là, il va dire, mais écoute, Balaam, j'ai un problème. J'ai appris la terreur que sème le peuple d'Israël depuis qu'il est sorti d'Égypte. Je sais que toi, tu es un prophète, que quand tu dis quelque chose, la chose s'accomplit. Si tu maudis ce peuple-là, il sera maudit. Et là, Dieu va voir Balaam. Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est... Bon, qu'avait ce peuple? Ce peuple dont Dieu dit qu'il est béni, il était où? Dans le désert, oui ou non? Il était en train de tourner en rond dans le désert, oui ou non? Est-ce qu'il avait les Rolls-Royce? Est-ce qu'il avait la VW qui a des problèmes aujourd'hui? Est-ce qu'il avait tout ça? C'est ça le problème que nous avons, frères et sœurs. Satan nous tient. Il a voulu faire la même chose avec Jésus. Il a dit, si tu veux, je te donne toutes les choses que tu vois là. Adore-moi seulement. Parce que Satan sait qu'à cause de l'autorité qui lui a été donnée par Adam, pour avoir désobéi à Dieu, pour avoir péché contre Dieu, il joue de cette autorité pour faire souffrir le genre humain. Et donc, il va dire, voilà la même chose, il va dire, non, les choses que nous aimons, il va dire, maudis-moi ce peuple, parce que ce peuple est trop fort. Mais ce n'est pas le peuple qui était fort, c'est Dieu qui était trop fort. Parce que c'était un peuple de trouillards, ils n'avaient jamais fait la guerre, ils ne savaient pas comment tenir, ils ont été pendant toute leur vie esclaves. Et là, il va dire, Dieu va dire, tu ne peux pas maudire ce peuple parce qu'il est béni. Mais de quelle bénédiction parle Dieu? De celle que nous avons vue précédemment, qu'il a faite à Abraham. Parce que Dieu est fidèle à quoi? À sa parole. Frères et sœurs, soyons conscients de ça. Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez des champions. Mais c'est la seule condition que nous soyons les uns les autres fidèles à la parole de Dieu. N'ayez pas peur des épreuves externes, je vous dis. N'ayez pas peur de la maladie, de la mort. Rien. Satan ne peut rien vous faire. Écoutez, ce matin, il ne peut rien vous faire. Ça fait des mois, des années que je dis que Satan est petit, non pas à cause de ma force, parce que celui qui est en moi, le Dieu vivant est vrai, l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc quand je marche en vainqueur, je ne suis pas un vaincu, c'est lui qui est vaincu, c'est lui qui doit avoir peur de moi, et non pas moi qui vais avoir peur de lui. Frères et sœurs, marchons la tête haute. Pourquoi nous avons peur de Satan? Et oui, nous avons peur de lui parce que nous avons peur de perdre ce que nous possédons. C'est ça qui nous fait peur. Nous avons peur. Ah oui, Satan va me tuer en voiture. Mais toi-même, tu es en train de proclamer ta mort. Ah oui, je ne me sens pas bien, je vais finir par être malade. Tu es en train de proclamer ta maladie. C'est comme ça. Oh, je n'y arriverai jamais. Ah ben, tu n'y arriveras jamais, puisque tu l'as dit. Je vous dis, frères et sœurs, un jour, il y a une femme d'une cinquantaine d'années qui allait voir son médecin pour lui dire « Docteur, je crois que j'ai le cancer. » Et le docteur lui dit « Mais pourquoi vous dites que vous avez un cancer ?» Elle lui fait donc l'histoire de son arbre généalogique. Elle lui dit, ben, mon arrière-grand-mère en a eu, ma grand-mère en a eu, elle en est morte, ma mère aussi elle a eu, elle en est morte. Donc, conclusion, moi je l'ai. Moi aussi j'ai le cancer. Et le docteur dit, mais comment voulez-vous qu'on fasse maintenant, madame? Ah ben il faut m'opérer, hein. J'ai un cancer du sang, vous m'opérez, vous l'enlevez. Et là, le docteur a beau conseiller cette femme, il a quand même fait faire les examens, il n'y avait rien. La femme lui dit, je sais que j'ai un cancer. Je sais que j'ai un cancer. Et puis vous voyez, à un moment, le docteur lui dit, bon ben écoutez, il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Et il a simulé une opération. On lui a ouvert, on lui a fait une petite cicatrice. On l'a endormi, bien évidemment. On lui a fait une petite cicatrice. On l'a réveillée ensuite. Et elle continue. Qu'est-ce que je vous disais? Ils me l'ont enlevé. Je vous disais que je l'avais. Mon médecin ne voulait pas m'écouter. C'est comme ça que le médecin a eu sa paix. Eh oui, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils passent leur temps à proclamer le mal. Est-ce que vous savez que quand vous proclamez le mal, vous faites la gloire de Satan? Quand vous proclamez le mal, les paroles négatives font la gloire de Satan. À chaque fois que vous dites, ah ben oui, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Non, le chrétien ne parle pas comme ça. Le chrétien parle selon les paroles de son maître. Parce que nous avons un maître. Tu commences par dire, Seigneur, la situation est réelle, elle est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire d'être dans un déni de réalité, c'est pas ça. La situation, elle est réelle, elle est difficile pour moi. Mais je sais une chose, oh, si tu es avec moi, je ferai des exploits. Oui, c'est si tu es avec moi, tout seul, je n'y arriverai pas, Seigneur. Mais avec toi, je fais des exploits. Avec toi, je veux connaître, je veux expérimenter des choses que je n'aurais jamais expérimentées par moi-même. C'est cela, frères et sœurs. C'est pas je veux être ceci, non, j'ai mal, non, je... non, 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 non. Oh, l'Église, tu as vu l'Église? L'Église t'a fait quoi? Laisse l'Église tranquille. Toi, vis. Oh l'Église, l'Église, toujours il faut que vous trouviez un bouc émissaire. Oh l'Église, tu as vu telle sœur, oh c'est au ras des fesses. Hein? Franchement, on est quand même dans la maison de Dieu, non? Et parce que tu crois que tes yeux ils sont hypersoniques par rapport à ceux de Dieu? Oh mais tu as vu tel frère? Mais c'est pas la peine quoi, mais il sent encore l'alcool, il s'en est empiffré toute la nuit. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que ça te regarde? C'est pas ton problème. Toi, viens, concentre-toi sur une et une seule personne. La personne de Jésus-Christ. Loue-le, adore-le, célèbre-le. Quand tu sors de ce lieu, tu es requinqué, tu es boosté, tu es ravivé, tu as envie d'aller déplacer les montagnes plutôt que de venir critiquer les frères et les sœurs. Quand tu sors d'ici, tu es affaibli. Quand tu sors d'ici, tu es malheureux. Quand tu sors d'ici, parce que tu n'auras pas été en communion avec ton Père Céleste qui est là en ce moment, qui est réel, pas visible à nos yeux physiques, mais qui est réel par la promesse qu'il nous a faite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi vous vous enquiquinez, frères et sœurs? Pourquoi vous ne comprenez pas que moi, si j'embête le pasteur Xavier, je suis en train de m'embêter moi-même. On fait partie du même corps. Vous considérez la famille physique, mais c'est votre problème. On fait partie du même corps. C'est ce que Dieu nous dit, oui ou non? Alors, la bénédiction de Dieu, frères et sœurs. Poursuivons avec notre texte. Voici la bénédiction pour le juste. C'est l'apôtre Paul qui loue, qui adore Dieu. Par béni soit Dieu, on peut remplacer en disant loué soit Dieu, adoré soit Dieu, exalté soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Waouh! Écoute, c'est ce que je vous ai dit dans Genèse. Là, Dieu a fait quoi? Il nous a élus avant quoi? C'est bizarre quand même, si on commence par faire une élection comme ça. Allez, on va s'amuser. On va dire, mais écoutez, madame, vous serez enceinte peut-être, je ne sais pas, dans quelques ans, dans quelques années. Mais on va élire votre fils président de la France. Ça marche pas comme ça. Normalement, l'élection, il faut être présent. Il faut se présenter. Mais là, Dieu dit, même avant que nous ne soyons nés, il nous a élus avant la fondation du monde. L'homme n'était pas encore créé. L'homme n'était pas créé, tu es déjà élu. C'est ce que la Bible nous dit. Tu es déjà élu. Et aujourd'hui, par tes propres efforts, tu veux plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu par tes efforts, ni moi, ni toi. Personne. Même le grand apôtre Paul, il avait encore des boulets qui traînaient sur ses pieds. Il dit, mais moi, je ne comprends pas cette vie-là aussi. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je n'aime pas faire, c'est finalement lui que je fais. Comment ça se passe dans cette vie-là? Pendant sept chapitres, de l'Épître aux Romains, du chapitre 1er au chapitre 7, il traite du péché, de la loi, toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit lui donne une étincelle, alléluia. Chapitre 8, verset 1, il dit, ah, il n'y a maintenant plus de... Pour qui? Pour ceux qui sont en... Est-ce que tu es en Christ ce matin? Tu n'as plus... Tu n'es plus condamné, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Dieu nous a élus, nous n'étions même pas nés. Quand Dieu parlait, il savait ce qu'il était en train de faire. Donc, il nous a prédestinés. La prédestination de Dieu, je ne vais pas rentrer vraiment là-dedans dans les détails. Ça n'a rien à voir avec le fait. Parce qu'il y en a qui se disent, mais oui, mais Dieu, oui, mais si Dieu savait déjà. Non, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu a dit, bon, Ulrich, ah, il est pas mal quand même. J'hésite. Il est tellement méchant. Bon, je vais quand même le prendre, je vais le mettre sur ma liste. On va voir. Non, ça n'a rien à voir avec ça, vous comprenez. Ce n'est pas que Dieu a choisi. La prédestination de Dieu, ce n'est pas choisi. Quand on met le mot terme choisi, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu a choisi les uns et il a abandonné les autres. Non, c'est Dieu qui a créé l'humanité. La prédestination, c'est juste que Dieu, quand il crée le monde, il a mis un cadre déjà. Il a vu la déchéance humaine, il a vu la chute de l'humanité. Il a préparé en même temps le plan de rédemption. Et dans le plan de rédemption qu'il a préparé, il a déclaré que quiconque va accepter mon fils comme son sauveur et son seigneur, hein, ne va pas mourir, ne va pas périr. Mais il aura quoi? La vie éternelle. C'est ça, frères et sœurs. Nous n'étions pas nés, que les choses étaient déjà faites. Pourtant, vous le faites chaque jour. Mais quand il s'agit de Dieu, vous l'ignorez. Ceux qui sont déjà parents, ils le savent. Eh bien, vous préparez la chambre quand? Quand madame est enceinte, là, la chambre, vous la préparez quand? Quand elle a accouché? Et vous croyez que l'intelligent, vous êtes plus intelligent que Dieu. C'est bien. Pas de problème. Vous préparez la venue de votre enfant. Vous vous assurez que pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de faire un enfant. Vous ne le faites pas. Et vous croyez que le Dieu vivant est vrai, le créateur de toutes choses. Il va créer l'homme sans pour autant qu'il ait prévu un cadre de vie pour cet homme. Sans pour autant qu'il ait prévu son héritage. Sans pour autant qu'il ait prévu quoi que ce soit. Non, frères et sœurs. C'est là où nous avons les problèmes avec Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé quand? Avant la terre, avant les cieux? À quel moment? L'homme, c'est la fin, c'est le pinacle de la création divine. L'homme a été créé à la fin. Mais comment Dieu pouvait-il lui dire, écoute, domine sur les poissons? Si les poissons n'étaient pas là, comment pouvait-il lui dire de dominer sur les poissons? Non, là je parle comme si on était à la maternelle, permettez-moi ce matin. Vous comprenez? Dieu crée l'homme à la fin et lui dit, voici ton héritage, va, tu es le gestionnaire de mes biens sur la terre et tout ce qui bouge dans le ciel atmosphérique. Tu es le gestionnaire de mes biens. Avant même que tu ne sois né, continuons notre lecture. Voici maintenant, nous abordons le deuxième point. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui en... Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous allez remarquer ici que c'est la bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est béni. Il faut que vous compreniez. C'est pour ça, quand Dieu parlait tout à l'heure au travers du don, les rivalités et tout ça. Parce que vous avez l'impression que l'autre, comme il a une belle voiture, Dieu le bénit plus que moi. Parce que moi, j'ai toujours la deux chevaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs. On te dit, c'est la proclamation du bien sur ta vie que l'Éternel a faite qui t'enrichit. Et non pas les biens que tu accumules. Ça, c'est la richesse économique. Mais la richesse divine n'a rien à voir avec la richesse économique. La richesse économique, c'est l'accumulation de biens. Mais la richesse divine, elle est liée à la proclamation du bien que Dieu a fait sur ta vie et sur la mienne. Et Dieu dit que c'est cette richesse-là qui enrichit. C'est cette richesse-là qui te procure la paix. C'est cette bénédiction, pardon, qui te procure la paix. Et oui, la richesse dont il est question ici, ce n'est pas d'avoir un gros compte en banque. Si vous en avez, alléluia. Surtout, n'oubliez pas de m'inviter quand vous aurez du caviar à votre table. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est parce que Dieu a proclamé sur ta vie que tu es riche. Écoutez, si vous ne me croyez pas, on prend un exemple tout de suite. L'exemple de Jacob. Vous connaissez tous la vie de Jacob. Jacob a usurpé, le droit, et enfin il a volé, comme on dit, le droit d'aînesse. Il s'est rendu dans la patrie de son oncle Laban, où il allait chercher à trouver une épouse. Et Jacob a dû travailler 7 ans pour avoir l'épouse qu'il n'avait pas choisie au départ. Et son oncle lui a dit, écoute, si tu veux la deuxième, c'est pareil, c'est bingo. 7 ans encore. Le chiffre parfait, 7 ans encore. Et il a fait 14 ans de sa vie, il a travaillé pour son oncle et il a eu les 2 sœurs. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, vous voyez, c'est pas mal. Allez, toutes les familles où il y a 2 filles célibataires, levez la main. Oh, ça, c'était les histoires de l'époque. Heureusement que Jésus n'était pas encore venu. Jacob va amasser des richesses. La Bible nous dit qu'il va finalement vouloir retourner dans le pays de Canaan, comme Dieu le lui avait dit, parce que Dieu va renouveler justement la bénédiction qu'il a faite à Abraham, il va la renouveler à Isaac, il va ensuite la renouveler à Jacob. Et Jacob va décider de retourner justement dans le pays que Dieu avait promis. Et là, il y avait un obstacle pour Jacob, parce qu'il n'avait pas fait la paix avec son frère Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse. Et là, il craint pour sa vie, pour tous ses biens, pour toute sa famille. Jacob, avec ses 2 femmes, avec ses servantes, avec ses serviteurs, avec tous les esclaves qu'il avait, toute la richesse qu'il avait. Et là, il va se mettre en route, il va mettre des stratégies humaines pour voir justement attirer les faveurs de son frère Ésaü, qu'il attendait bien sûr de pied ferme. Et là, ce jour-là, alors que Jacob met en place son plan, il va se retrouver tout seul, alors que toute la famille et les serviteurs vont être de leur côté. Et c'est là qu'il va avoir la révélation de Dieu. La Bible nous dit que Jacob va lutter avec Dieu, littéralement. Il va lutter. Et qu'est-ce que Jacob va dire à Dieu ? Je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies. Mais comment peut-il dire à Dieu, si la bénédiction c'est les vaches, à l'époque c'est ça la richesse, il avait les vaches, il avait les moutons, il avait tout, 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 mais comment peut-il dire à Dieu, je ne te laisserai partir pour tant que tu ne m'es béni? Ça doit nous faire réfléchir. Il avait tout, Jacob, on est d'accord, vous lisez, Genèse 32, vous allez voir, il était riche. De toute façon, il proposait même à son frère des centaines d'animaux pour faire la paix. Et là, il dit à Dieu, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'es béni. Parce que Jacob avait les biens terrestres, mais il avait besoin que Dieu proclame quelque chose sur sa vie. Et la Bible nous dit que Dieu le bénit, c'est-à-dire Dieu a dit du bien sur lui. Et quand Dieu a dit du bien, écoutez ce que Jacob va dire ensuite, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face, frères et sœurs, et mon âme a été sauvée. C'est de cela dont il est question, la bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas le contraire, parce que souvent on croit que parce qu'on a beaucoup de biens, on est riche. Ça, c'est économiquement. Ça, c'est la terre. C'est les choses de la terre qui finissent par toutes s'étioler les unes après les autres. D'ailleurs, elles n'ont même pas le temps de s'étioler que nous en avons déjà marre. Vous savez, les gens sont comme ça. Demandez aux boulémiques d'achat, ils vont vous dire. Ils vont vous dire, j'achète, en général, voilà, ce ne sont pas des femmes, ce sont des filles. Comme ce matin, il n'y a pas de filles dans la salle, je peux dire du mal des filles. D'accord ? Les femmes ne le font pas, c'est que les filles. Elles vont acheter quelque chose, elles le mettent dans l'armoire, elles ne vont jamais porter ça pendant 2 ans, 3 ans. Ça, c'est que les filles qui font ça. Les femmes mariées ne peuvent pas oser faire ça. Et ensuite, on n'a même pas eu le plaisir de porter ce qu'on a acheté. Oh, pendant les dernières soldes, et quand les soldes étaient arrivés, allez, on repart. On achète, on remet dedans, on n'a pas le temps de porter. Et des fois, il arrive de temps en temps, elle regarde, elle dit, oh là là, ça me plaît plus ça. Eh bien oui, mais c'était il y a 2 ans. Il fallait profiter à porter cela à ce moment-là. C'était il y a 2 ans. Vous voyez, les goûts passent comme ils viennent. Les désirs passent comme ils viennent. Mais la bénédiction de Dieu, elle est établie pour l'éternité. Elle n'est pas pour un temps, elle est pour l'éternité. Et si aujourd'hui nous sommes en ce lieu, c'est parce que nous avons hérité justement de la bénédiction d'Abraham. Poursuivons la lecture. Voici la parole que Dieu va donner à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je vais vous donner un secret, je vais vous dire un secret que vous connaissez déjà. Si nous voulons vivre heureux, la vie chrétienne là, si nous voulons être heureux, obéissons simplement à la parole de Dieu. Je vous dis que ça marche à tous les coups. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus de difficultés. Non, souvent quand on dit ça aux chrétiens, ils croient que voilà, on va voir. Ça, c'est les gens qui ont juste envie de vous attirer. Ils vont vous dire, ben oui, venez dans notre église, parce que nous, quand on prie, on voit le ciel qui tombe dans l'église. OK. Venez dans notre église, parce que nous, quand on prie, mais vraiment, il y a les murs qui tremblent. OK. Mais que le ciel tombe, que les murs tremblent, qu'est-ce que ça peut changer à ta vie? Qu'est-ce que ça va apporter à ta vie? Moi, je préfère avoir un cœur obéissant. Comme ça, parce que j'obéis à la parole de Dieu, Dieu fait quoi? Il l'exécute, c'est-à-dire qu'il la met à exécution. Il met à exécution ce qu'il a dit, il accomplit ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'il dira à Ésaïe, il dira, moi, ma parole, elle ne retourne pas à moi, sans avoir fait ce pourquoi je l'ai envoyé. Frères et sœurs, Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas d'abord sur un homme ou une femme. Dieu veille sur sa parole. Quand un homme, une femme, enfant de Dieu sont attachés à la parole de Dieu, Dieu a l'obligation de les suivre. Vous allez me dire, mais toi tu es arrogant. Non, il a l'obligation de les suivre. Parce que c'est lui-même qui le dit. Il dit, je veille sur ma parole. Mais si tu es attaché à la parole de Dieu, comment ne veux-tu pas que Dieu soit là? Parce qu'il veille sur sa parole. Parce que tu as dans ton cœur quelque chose qui lui appartient. Il est là. Tout comme si tu t'intéresses à la parole de Satan. Mais Satan sera toujours là dans ta vie. Parce que là aussi, tu as quelque chose qui lui appartient. Dieu veille sur sa parole. Poursuivons la lecture. Les lamentations, toujours Jérémie. Il va dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Ça, il est question de la bienfaisance de Dieu. Les bienfaits de Dieu, ce que Dieu nous apporte, ce que Dieu nous donne. Mais ce que Dieu nous donne est lié à quoi? D'abord à ce que lui a dit. La bénédiction, la bienfaisance de Dieu, comme on a vu en introduction, est liée à la bénédiction de Dieu. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, il ne peut pas s'engager. Donc les bontés de Dieu sont acquises. Frères et sœurs, obéissons simplement, nous allons être au bénéfice. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, il a dit, mais non, il suffit que vous obéissiez, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Obéissez, et moi je m'occupe du reste. Poursuivons. Voici les caractéristiques du juste béni. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont éloignés de Dieu. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voici le psaume, justement, du juste béni. Je veux vous faire remarquer juste 2 choses ce matin. Dans ce psaume, il est question de « il est ». Et ensuite, ce qu'il fait. Et souvent, nous ne sommes pas intéressés par notre identité. Nous sommes directement intéressés par ce que nous pouvons posséder, par ce que nous pouvons faire. Mais jamais intéressés par ce que nous sommes. Ce que nous sommes est bien plus que ce que nous pouvons faire. Car ce que nous pouvons faire est lié finalement à quoi? À ce que nous sommes. Là, vous allez me dire, c'est quoi ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire? Ce que nous pouvons faire est lié à ce que nous sommes. Et si nous éludons notre identité en Christ, nous ne pourrons pas être heureux. Nous ne pourrons rien faire. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 15. Si vous vous détachez de moi, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne servez à rien. Et ce juste, il ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. C'est-à-dire le conseil des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas parce que ton collègue ou ta collègue va te dire « Ah ben là, franchement, le chef, et toi tu abondes, ah oui, mais tu as vu le chef, non mais c'est pas possible, hein. Ah oui, tu commences à dire du mal du chef. » Non, Dieu dit « Non, mon enfant, je te regarde, c'est pas comme ça que j'ai voulu que tu vives. » Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah là, les gens vont dire « Ah, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il faut pas aller, les gens du dehors, ils sont méchants. Il faut surtout pas, c'est pas ça que ça veut dire. S'arrêter, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que les pécheurs font. C'est ça. Qui ne prend pas plaisir dans ce que les pécheurs font. C'est ça. Mais qui est toujours prêt à aller vers eux. Pourquoi? Pour leur annoncer la vie. Je sens que le bip est en train de me dire, Ulrich, ça va être fini. Je vais aller un peu plus vite, là. Donc, cette personne ne s'assied pas non plus en compagnie des moqueurs. Et la personne trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, il est. C'est son identité. Tu es comme un arbre. Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce que tu fais te réussit. C'est ça le juste qui est béni. Il est d'abord, il est attaché à Jésus, et parce qu'il est attaché à Jésus, la bénédiction qui vient de Jésus va couler dans sa vie, et cette personne va pouvoir justement porter du fruit. On avance, on va vite terminer. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui... Alors, quand on dit aimer Dieu, là, vous croyez que c'est quoi? Avoir des sentiments pour Dieu. Hein, je vais sortir avec Dieu. Hein. C'est ça. Hein? Non. Aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est ce que ça veut dire. Aimer Dieu, ça veut dire pour ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui vivent pour Dieu. Toutes choses concourent à leur bien. Parce que si ce n'était pas ça, ben, l'apôtre Paul aurait dit quoi? Toutes choses concourent au bien de tous les croyants. Il aurait dit ça normalement. Toute chose concourt au bien de tous les croyants. Mais il a précisé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire de ceux qui lui obéissent, de ceux qui font sa volonté. Toute chose va concourir à leur bien. Parce qu'il les a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, vous avez la prédestination, il les a aussi... appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi, vous êtes juste. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi, glorifiés. Tu peux passer les deux dernières, c'est la même chose. C'est toujours Romain qui poursuit. Donc Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a appelé. En t'appelant, il t'a justifié. En te justifiant, il t'a glorifié. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, « Père, la gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as... » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Terminons maintenant. Très rapidement. Le texte qui suit, ça on peut passer. Voici la plus grande bénédiction pour le croyant aujourd'hui. Jésus va dire, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, mais ce n'est pas ça que nous aimons. Parce que ce que nous aimons, c'est que Dieu nous dise, voici, tous les jours, je te donnerai ci, je te donnerai ça, je te donnerai... Voilà, c'est ça que nous voulons. Mais la plus grande bénédiction que nous puissions avoir, frères et sœurs, c'est que le Seigneur soit avec nous. Et plus qu'avec nous, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est en nous. Donc, tous les jours, c'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait que nous soyons heureux. C'est ça qui fait que nous soyons heureux. C'est pour ça que le psalmiste va dire de Jésus, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Il ne t'a pas béni pour un temps. Il ne t'a pas béni pour une semaine. Il ne t'a pas béni pour un mois parce que tu as fait un mois sans insulter ta belle-mère. Non, il t'a béni pour toujours. La bénédiction de Dieu demeure. C'est elle qui enrichit et pas autre chose, frères et sœurs. Nous ne devons pas confondre la bénédiction et la bienveillance ou la bienfaisance. La bienveillance de Dieu est liée à sa bénédiction. La bienfaisance de Dieu est également liée à la bénédiction. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne peut pas le faire. Malgré tout l'amour qu'il a pour nous, s'il ne l'a pas dit, il ne peut pas le faire. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour rendre grâce à Dieu? Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci parce que nous ne voulons pas être ignorants. Parce que tu nous dis dans ta parole que l'ignorant est un danger non seulement pour lui-même, mais pour les autres aussi. Ton peuple périt à cause du manque de connaissance. Non pas la connaissance qui enfle d'orgueil, mais cette connaissance qui est la révélation que nous avons de tes paroles et qui donne l'intelligence au simple. C'est de cette intelligence que nous voulons. Nous voulons être simples comme des enfants. Nous voulons t'obéir parce que tu nous dis quelque chose. Nous n'avons pas besoin de raisonner. Non, Seigneur, simplement t'obéir. Car c'est ce que tu demandes de nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous sommes déjà bénis. Nous n'avons pas à chercher de bénédiction. Nous n'avons pas à courir à gauche, à droite, parce que nous sommes déjà bénis. Tu as proclamé ta bénédiction pour l'éternité, sur tous ceux et toutes celles qui vont accepter ton Fils comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et l'Église de Dieu est déjà bénie. L'Église de Dieu est déjà glorifiée. L'Église de Dieu est déjà appelée, elle est justifiée. Alors nous n'avons pas besoin, Seigneur, de nous tourner vers qui que ce soit, parce que la bénédiction, elle est sortie de ta bouche et nous le croyons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.